Que serait la vie politique française sans le canard enchaîné? Giscard aurait-il été battu en 1981 sans l'affaire des diamants que lui a offert Bokassa, sans les révélations sur la responsabilité dans la déportation des Juifs de Bordeaux de son ministre du budget Maurice Papon, des affaires révélées par le canard enchaîné? Laurent Valdiguet, Karl Lasquet, le canard enchaîné est comme indispensable à la vie démocratique française?
Oui. Absolument, ouais. Oui. C'est quelque chose qu'on dit nous aussi. Hein. On a fait une enquête sur ce journal parce qu'on est effectivement dans une... D'abord parce qu'on est dans une période où on s'interroge sur les médias et où il y a une grande interrogation sur l'indépendance des médias. Je dirais la connivence, les relations avec le pouvoir, etc.
Et le canard enchaîné est un des rares hebdos indépendants. Il n'appartient à aucun groupe. Il n'appartient pas à un ami de Nicolas Sarkozy.
C'est la question justement qu'on se posait. C'est effectivement un modèle au plan financier, c'est-à-dire qu'il appartient à son équipe. Enfin, initialement, il appartenait à la famille du fondateur Maurice Maréchal. Donc, il est financièrement indépendant. Mais on se posait la question et on émettait l'hypothèse que l'indépendance financière ne suffisait pas. Et à preuve, pendant toute la période, je dirais, de la présidence Mitterrand, c'est-à-dire quand même deux septennats, le canard enchaîné a montré une difficulté à prendre ses distances avec le pouvoir socialiste. Et par la suite, aujourd'hui encore, on voit qu'il a des difficultés à prendre ses distances avec ses sources qui sont en relation avec le pouvoir.
Laurent Valdiguet, le canard enchaîné a des amis. François Mitterrand, Nicolas Sarkozy?
Oui, enfin, c'est vrai que c'est le modèle de presse idéal, puisqu'il ne dépend que de ses lecteurs, il n'a pas de publicité, et sur le papier, il appartient à ses journalistes. Donc c'est le modèle idéal. C'est le journal qui peut le plus, puisque c'est le plus indépendant de tous. Et c'est vrai qu'en creusant cette indépendance, on se rend compte que le canard ne l'utilise pas toujours.
On va prendre un exemple tout simple que tous les lecteurs du canard connaissent, c'est le journal de Karl Abbé. Alors, vous racontez comment ce journal de Karl Abbé est rédigé, Karl Lasquet?
Voilà, alors nous, on a été d'abord mis sur la piste de cette question par... c'est Arrêt sur Image, en fait, hein, l'émission et l'Express, qui avait travaillé sur l'existence d'un déjeuner entre un journaliste du Canard et Carla Bruni. Alors, il n'y a rien de... Comment dirais-je, de spécialement étonnant, ouais. Enfin, ou mais quand même un peu. Enfin, c'est-à-dire que d'ailleurs le canard a réagi un peu sur la défensive à ce sujet en disant que les déjeuners c'était possible, on refusait les dîners, mais les déjeuners c'était possible. C'est-à-dire qu'il y avait une proximité comme ça soudaine qui apparaissait à la fois pour les lecteurs et pour un petit peu tout le monde entre la présidence et le canard à travers ça. Et nous, on a posé la question, on a rencontré effectivement des conseillers, un conseiller de l'Élysée qui nous a confirmé qu'il était en relation avec le canard pour la rédaction
c'est que c'est Pierre Charron, conseiller en communication de Carla Bruni, qui rédige à moitié ce journal de Carla Bé, qui lui sert à faire passer des messages et qu'elle l'adore d'ailleurs, ce journal de Carla Bé.
Oui, entre autres. En fait, ils ont démarré avec le journal de Xavier T, à l'époque des Tibéries.
Et à l'époque. Qui était l'épouse du maire de Paris.
Et
lui était aussi fabriqué.
Alors c'était très drôle, le journal de Xavier T, au moins c'était drôle, parce que Xavier Tibéry parlait comme elle parlait dans le canard, c'est-à-dire de façon très crue. Et le journal de Xavier T était entièrement rédigé, pour le coup, par Jean-François Probst, qui était le communicant de Jean Tibéry à la mairie de Paris, qui s'en cachait pas, et qui disait que c'était une façon aussi pour les Tibéry, dans leur citadelle assiégée de la mairie de Paris, de faire passer des messages d'alerte et de faire passer des menaces au camp opposé. Et en fait, ils font un peu la même chose avec Karl Abbé, puisqu'il s'inspire de gens de l'Élysée. Et en fait, ça a des airs méchants, mais ça ne l'est pas.
Vous avez eu les pires difficultés à écrire ce livre. Et je crois que vous n'avez pas rencontré les gens du canard, ça a été compliqué. Comment s'est déroulée l'écriture de l'ouvrage?
C'est un parcours du combattant incroyable d'enquêter sur le canard. La plupart des gens qu'on a approchés hésitaient. Dès lors qu'ils demandaient un peu une autorisation, entre guillemets, aux gens du canard, ils essuyaient un refus. On s'est fait annuler un nombre incroyable de rendez-vous. Les journalistes du canard que l'on a rencontrés exigeaient qu'on parle par écrit, qu'en face à face, on fasse des questions écrites et qu'ils répondent par écrit. Certains exigeaient que l'entretien soit enregistré. Et la plupart ont refusé de nous voir officiellement. Alors certains ont quand même réussi enfin, on passait, on acceptait de nous voir sous le manteau. La plupart des anciens, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont partis du Canard et souvent fâchés, en fait. La plupart des anciens nous ont vus. Et les gens, les dirigeants, les trois dirigeants du Canard enchaîné actuel, que l'on essaye de rencontrer depuis le mois de juillet, ont refusé de nous voir. On s'est échangé un nombre incroyable de mails.
Oui. Alors, pour revenir au lien entre le Canard enchaîné et le président de la République, vous racontez qu'il y a des liens d'amitié entre Pierre Charron, et conseiller en communication de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, et des journalistes du Canard enchaîné. Mais comme des affaires contre Nicolas Sarkozy qui sont sorties dans le Canard, je pense à l'affaire des écrans plasma en 2004, où le Canard enchaîné raconte comment le couple Sarkozy s'est fait offrir un certain nombre d'écrans plasma.
On ne dit pas non plus, évidemment, notre propos n'est pas de dire attention, voilà, le Canard, nouveau journal Sarkozy. C'est pas du tout la question. On s'interroge sur l'influence, et donc on s'est interrogé sur la connivence, le rapport entre le journalisme d'enquête et le journalisme politique. Est-ce que le journalisme politique avait ou pas, je dirais, un peu dévoré le journalisme d'enquête au sein du Canard? Et donc c'est sûr que les relations, on s'est interrogé sur la manière dont les journalistes du Canard faisaient la page 2 en particulier. Et donc il y a tout un rhizome de pigistes et de conseillers sarkozistes, y compris des relations indirectes avec Hortefeux.
Le Parti Socialiste comme l'UMP utilise la page 2 du Canard pour faire des infos.
Oui, parce qu'au chapitre des liens de consanguinité entre effectivement la fameuse page 2 du Canard et la classe politique, vous dites que François Hollande était l'un des principaux pourvoyeurs d'informations de cette page, et encore aujourd'hui. Est-ce qu'il a réagi depuis à ces affirmations?
Non, il a pas réagi. Mais bon, ça encore, c'est des liens, je dirais, qui sont à bon droit. C'est-à-dire que c'est normal, quand on fait une page politique, quand on fait une page sur la présidence, il faut prendre des contacts. Mais la question est un petit peu qui fait ces échos, qui les rédige. Et on voit bien d'ailleurs que les journalistes qui sont partie prenante de tout ça écrivent des livres extrêmement sympathiques. On donne un peu la liste, extrêmement sympathique pour le pouvoir actuel. Alors, est-ce que ces journalistes politiques ou cette présence forte et ce suivi politique empêchent le Canard de faire des enquêtes sur Sarkozy? Alors, pas toujours. Je veux dire, là encore, on est pondéré. Il y a l'affaire des écrans plasma qui est sortie, mais on a l'exemple d'articles trappés par le Canard sur Sarkozy aussi.
Par exemple, Renaud Vallier.
En fait, pour revenir un tout petit peu en arrière, mais on va revenir à Sarkozy après. On a travaillé avec Carl pendant 10 ans sur l'affaire Elf. Sur l'affaire Elf, le Canard est le journal qui rate l'affaire Elf. Non seulement il ne révèle rien sur l'affaire Elf, mais il est sans cesse en défense des gens attaqués par les juges. Et il va, au bout du bout, jusqu'à attaquer les juges, dans un rôle de contre-emploi absolu, puisque le Canard a plutôt été toujours le journal des petits juges, et là se met à attaquer les juges. Donc on voit bien qu'il y a des enquêtes sur lesquelles ils sont réticents parce que ça touche à des amis. Ils voient un peu la vie en noir et blanc, le Canard enchaîné.
François Mitterrand,
avec
par exemple.
Ou contre. Voilà. Et Sarkozy, alors c'est vrai qu'ils sortent l'affaire des écrans plasma, il y en a deux affaires qui sortent au Sarkozy, les écrans plasma. Mais quand on regarde dans le détail et quand on se fait expliquer comment ça s'est passé en interne, on voit qu'ils l'ont sorti, mais un peu réticent, c'est-à-dire dans leur code à eux, en page 4, pas en page 3. Dans leur code à eux, ils sont pas revenus dessus beaucoup. Voilà, donc dans leur code à eux, Sarkozy, on voit bien, ils sont réticents à y aller. Juste avant la présidentielle, ils font une enquête sur Sarkozy parce qu'un de leurs journalistes trouve l'affaire de l'appartement, ce qui est un truc assez gros en termes d'informations de base. Mais ils sont tellement gênés d'en faire une page qu'ils annoncent, chose inédite dans l'histoire du Canard, ils annoncent pour la semaine suivante une enquête sur Ségolène Royal. Il la publie quand même. Sarkozy fait un droit de réponse. Et en interne au Canard, le journaliste qui avait ça n'avait pas dit qu'il avait des documents. Donc ça lui permet de remettre des documents. Donc en fait, tout ça pour expliquer qu'au sein du Canard, on l'a appris dans notre enquête, au sein du Canard, tout ce qui touche à Sarkozy est un problème.
Oui. Alors, on va revenir un petit peu en arrière sur les deux grandes affaires du Canard enchaîné. C'est quand même l'affaire des diamants offert par Bokassa à Giscard d'Estaing, c'était en 1978. C'est un scoop du Canard, c'est énorme. À l'époque, Giscard d'Estaing est président de la République. La radio et la télévision ont beaucoup de mal à aborder le sujet. Exemple, on va prendre un extrait trouvé par Michel Bedos, la réalisatrice de l'émission. Valérie Giscard d'Estaing est interrogée sur Antenne 2 en novembre 1979 par Alain Duhamel et Jean-Pierre Cabache, qui vraiment prennent des pincettes. C'est un sujet gênant.
Il y a une question complémentaire, c'est de savoir si vous seriez favorable ou pas à ce qui est en France, un statut comme ça existe aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, qui interdisent en fait aux personnalités officielles, pas seulement au président, ça peut être aussi bien aux ministres, aux membres de mission, etc., de recevoir des cadeaux au-delà d'une certaine valeur.
Je n'ai jamais aucune objection. Je vous dirais même que je suis allé plus loin. Puisque j'ai pris des initiatives auxquelles personne ne m'obligeait, depuis que j'ai été président, j'ai versé tous mes droits d'auteur à des œuvres de bienfaisance, comme vous le savez, pour des montants considérables, personne ne m'y obligeait, et j'ai récemment donné la propriété de mon vivant, ce qui n'avait jamais été fait, de toutes les archives de la présidence, qui ont un autre intérêt, une autre valeur, hein, aux archives nationales. Donc aucune objection à une réglementation.
Donc votre silence, et on en termine avec cette question, votre silence n'était ni de l'embarras, ni de l'indifférence, non. Ni du mépris.
C'était quelque chose qui tenait aussi, permettez-moi de vous le dire, à mon caractère et à l'idée que j'ai de ma fonction, et qui est qu'il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison.
Oui, la gêne des journalistes de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, est très embarrassée par cette histoire. C'est une histoire du canard enchaîné, hein. C'est le seul.
Alors c'est vrai que quand on se replonge dans le canard de cette époque, ça n'a plus grand-chose à voir avec le canard d'aujourd'hui, pour revenir à son opposition éventuelle à Sarkozy. C'était un journal de combat, c'est-à-dire c'était un journal contre Giscard qui, toutes les semaines, revenait sur cette affaire dont il s'était emparé, l'affaire des diamants. Et on sait aujourd'hui, puisqu'on on a largement enquêté sur tout ça, on sait aujourd'hui qu'en réalité, ils ont eu, grâce à Pierre Péan, qui a mis 2 ans à l'obtenir, un document, le document initial sur les diamants, et qu'ensuite, ils ont été embarrassés pendant... Il y a eu un bras de fer terrible avec l'Élysée. Ils ont été embarrassés pendant 1 mois. Et ensuite, de nouveaux documents sont arrivés. Et on sait aujourd'hui pourquoi, en fait, c'était des vrais faux documents. À savoir, Bokassa n'avait plus de documents du tout quand il était en exil.
Et à l'époque, Bokassa qui est président ou empereur de Centrafrique.
Et on sait aujourd'hui qu'ils ont... Enfin, l'équipe Bokassa a refabriqué des documents pour revenir à la charge. Alors c'est vrai que c'était vrai faux, c'est-à-dire que c'est
une
vrai que
est vrai quand même.
Le fond est vrai, oui. Mais le canard jusqu'à l'année dernière encore faisait encore des droits de réponse à l'Express qui est venu faire une petite histoire de l'affaire des diamants pour dire pas du tout, on n'a jamais publié de vrais faux documents.
Juste un mot, et là on est en présence d'une double instrumentalisation en réalité, parce qu'il y a effectivement des réseaux gaullistes qui soutiennent ça, hein, pour flinguer Giscard, et il y a l'avocat du canard enchaîné qui est Roland Dumas qui aussi souffle sur ses braises pour favoriser Mitterrand.
Alors, l'autre grande affaire du canard, c'est bien sûr la une du 6 mai 1981, la une sur Maurice Papon. Il est à l'époque ministre du budget du président Giscard d'Estaing, et on apprend qu'il a eu un rôle dans la déportation des Juifs de Bordeaux en 1942. La date du 6 mai 81, c'est par hasard, c'est entre les 2 tours de l'élection présidentielle. Elle est choisie, cette date, par le canard enchaîné.
Oui, alors encore une fois, c'est la proximité du canard avec l'équipe Mitterrand, puisque c'est Nicolas Brimaud qui fait ce scoop, qui est un scoop.
C'est énorme, hein.
On ne remet pas en cause le fait que Papon, la révélation du rôle de Papon pendant la guerre était quelque chose d'indispensable et d'énorme. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais Michel Slitinski, qui est le résistant bordelais, qui a échappé à la rafle à 17 ans à l'époque, tambourine à la porte du canard depuis des mois pour que tout ça sorte. Et ça sort, entre les 2 tours de la présidentielle. Mitterrand aurait dit à l'époque, c'est Slitinski qui nous le raconte, que ça allait déplacer 200 000 voix. Et surtout, c'est avec le recul, Slitinski et d'autres s'interrogent sur la façon dont le canard ensuite a adopté un peu la ligne Mitterrand sur Papon.
C'est-à-dire qu'il y a un choix politique.
C'est-à-dire la ligne Mitterrand sur Papon, c'est au fond, très vite, à l'Élysée, c'est très vite de dire non, mais maintenant arrêtons. Est-ce qu'il faut que la justice s'en mêle? Est-ce que c'est pas à l'histoire de juger tout ça, tout simplement, etc. Sachant que pendant des années, le même Slitinski porte en lui l'affaire Bousquet et la révélation du rôle, la proximité de Mitterrand à Bousquet, qu'on apprendra des années plus tard.
Ouais.
Et que là, le canard n'y va pas.
Ouais. Enfin, il y va quand même. Nicolas Brimaud vous répond. Il y a un nombre d'articles qui sont publiés sur Christian Bousquet dans le canard enchaîné.
Aucun.
Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils n'oseront jamais vraiment dénoncer, en particulier, la relation très connue à partir de 91 entre Mitterrand et Bousquet. Donc là, il y a une réserve qui est quand même pour nous très très surprenante. C'est-à-dire qu'on le canard a été capable de faire cette manchette et de faire cette manchette sur Papon et n'en a pas fait sur Bousquet.
Hein,
c'est ça.
Il n'y a pas une manchette, mais il y a des articles sur Christian Bousquet dans le canard enchaîné.
Enfin, Serge Klarsfeld, qui est l'homme qui a toute sa vie enquêté sur Bousquet, qui a porté ce combat contre Bousquet, nous dit que Le Canard Enchaîné, à l'inverse du Monde ou à l'inverse d'autres journaux, ou à l'inverse de l'Express, qui a révélé en 79, en faisant une interview de Darquet de Pellepoix, le rôle de Bousquet dans la rave du Veldiv, Le Canard n'est jamais allé sur ce terrain. C'est-à-dire le Canard n'a jamais été numéro un sur la révélation du rôle, de la proximité de Mitterrand et Bousquet. À tel point que quand Pierre Péan fait son livre, Une jeunesse française, sur Mitterrand, et où il révèle un peu, puisque Mitterrand lui a parlé de Bousquet, c'est Le Monde qui renverse tout ça en disant le grand secret de Mitterrand. Ça déclenche pendant un mois en France des manchettes quotidiennes, l'émotion de la gauche, l'émotion générale sur le rôle de Mitterrand. Un seul journal échappe à ce débat, c'est Le Canard.
Karl Lasker, sur les liens entre François Mitterrand et...
Oui, non, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le Canard profite aussi des alternances, des deux alternances, pour dire, attention, si l'affaire Papon n'avance pas, c'est à cause de la droite. Et là, il y a quand même un peu de mauvaise foi.
Mauvaise foi ou ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre
Franchement, un peu de mauvaise foi, parce qu'ils savent très bien que la présidence, que François Mitterrand ne veut pas de ce procès.
Comme l'écrit Dan Schneerman dans Libération ce matin, est-ce qu'il faut jeter le canard avec l'eau du bain, ou l'eau de la mare, comme il l'écrit,
alors, justement donc, ce n'est pas du tout ce qu'on dit. On a constaté plusieurs crises au fond du canard. Il y a une crise, à notre avis, une crise de l'information. C'est-à-dire que on s'aperçoit que le canard, par exemple, ne s'excuse plus quand il commet des erreurs. Donc c'est le cas. Ça a été le cas récemment avec l'affaire de l'embuscade des militaires français. Il y a un rapport qui est publié par le Canard Enchaîné. Il s'avère au bout de 10 jours
sur
que c'est info.
Pour rappeler aux auditeurs, sur l'armée française à la suite d'une embuscade où des soldats français sont tués en Afghanistan.
Voilà, on s'aperçoit. Enfin, des blogueurs s'aperçoivent qu'en fait. C'est le rapport est constitué de petits bouts de blogs et de commentaires de blogs. Donc c'est info, le canard ne le dit pas, il n'y a plus de pan sur le bec. Donc là, il y a une vraie crise. Et ça démarre même avec l'affaire Rougeau, l'affaire de l'assassinat de Yann Pia, où le canard, incidemment, petit à petit, accuse deux personnalités de la majorité d'avoir trempé dans l'assassinat. Donc le canard ne s'excuse plus. Ça, c'est une première crise. Deuxième crise, c'est quand même l'indépendance, parce que c'est vrai qu'on voit des articles effectivement trappés, on voit des enquêtes qui ne sont pas conduites. On voit que le canard ne tient pas son rang d'investigateur sur plusieurs gros dossiers. Et une crise, enfin, de gestion, de management. Enfin, il y a des archaïsmes à tous les étages.
Oui, mais est-ce que ça ne tient pas tout simplement au vieillissement de l'équipe? Une équipe qui a peu bougé depuis 40 ans, ça a toujours été...
Et au renouvellement, et à la difficulté de renouveler, parce qu'effectivement, c'est une équipe réduite. C'est là... on ne peut pas dire que ce soit réellement de leur faute. C'est une équipe réduite qui vieillit. Il y a quand même 4 générations. Et on a quand même des gens qui ont effectivement 77 ans, qui sont encore patrons du canard. Enfin, et donc ça fait une différence d'âge importante pour conduire une équipe.
Et Laurent Valdiguer, sur cette même question, est-ce qu'il faut jeter le canard avec l'eau de la mare?
Non, bien sûr que non. On a mis en exergue une phrase de Camus, qui est de son premier éditorial de combat, qui dit « Un pays vaut souvent ce que vaut sa presse ». Donc on a besoin, bien entendu, pour être un pays informé, on a besoin d'un journal libre, indépendant et qui n'hésite à rien. Autrement dit, on a besoin de... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit bien que s'attaquer au canard provoque tout de suite des réactions épidermiques. Tout le monde est bien conscient qu'on a besoin d'un journal vraiment indépendant, puisqu'il n'en reste qu'un sur le papier. Donc en fait, tout ça, c'est au fond un aiguillon, un cri d'alerte pour dire, bon, mais attention, que le canard se ressaisisse.
Oui, Karl Lasker, Laurent Valdiguer, merci beaucoup. Le vrai canard est publié chez Stock et sort mercredi, c'est ça?
Oui.